Eugène Chavette, La vanité, deux vers de Propers. Mon héros se nommait Jacques. Il était couvreur de son état, belge de naissance et fort simple de caractère. Tous les ans, sa femme lui donnait trois enfants à la fois. On crut à une originalité de la dame. Pas un compliment pour Jacques, qui du reste ne soufflait mot. Mais devenu veuf, il se remaria. L'année suivante, la nouvelle épouse continua les errements de la première. Alors la réaction se fit. Jacques fut donc enfin reconnu pour collaborateur de talent. Autant on avait été injuste à son égard, autant il était à se louer du triomphe fait à son mérite. Bruxelles était fière de son compatriote. On l'inscrivit à la rubrique Curiosité de Bruxelles, dans le guide de l'étranger. Chacun le protégeait, bref, il jouissait dans la file d'une notoriété sympathique. Un soir, au cabaret, il s'offrit pour reconduire un ami des mieux avinés. Il longeait le canal quand le pochard lui dit « Ma femme me trompe. Toi, t'as 18 enfants et t'es un franc-cœur. V'là mon argent et ma montre. C'est pour toi en testament. » Et il s'élança dans le canal. Ce fut si vite fait que Jacques n'eut pas le temps d'aller chercher un notaire. Si vous trouviez le corps d'un homme dans un canal et sa montre dans le gousset son camarade, vous seriez le premier à faire de bien fâcheuses suppositions sur le détenteur de la montre. Mettez-vous donc à la place de la justice belge, qui était toute neuve et qui ne demandait qu'à travailler. Car c'était en 1837, on venait d'inventer la Belgique. Donc Jacques fut arrêté. Il était innocent, n'en pas douter. La sympathie générale s'accrut, et les portes de la prison allaient lui être ouvertes béantes, quand un vieux réactionnaire prononça cette phrase célèbre, qui fut pillée plus tard, « Méfions-nous des surprises du cœur !» On garda donc Jacques en prison pour lui réserver le triomphe d'une glorieuse acquittement. Mais du fond de son cachot, le couvreur régnait sur tous les cœurs par cette pitié inquiète dont chez nous les puisatiers enfouis ont aujourd'hui le monopole. À chaque membre du tribunal, on demandait « Mais quand donnerez-vous la clé des champs à notre Jacques ?» « Au premier jour, affaire de formalité, répondait-on. La ville entière aurait fourni caution, mais on se disait « À quoi bon ? Il sortira demain. » Et puis, c'était un excellent prétexte de s'écrier « Horrible supplice que celui de la préhension qui arrache un père à sa famille, à ses travaux, etc., etc. » Alors on envoyait du frigando et des matelas à la famille de l'incarcéré. La nuit, on montait sur les toits du voisin, arrachait des tuiles pour préparer du travail au brave coureur à sa sortie de prison. Enfin, le jour du jugement arriva. La veille, le président des assises, le bon monsieur Dubitlac, était descendu dans le cachot, dira Jacques. « C'est pour demain à 11 heures. Écrivez à votre famille de venir vous rendre au tribunal. À midi, votre affaire sera bâclée. Demain, vous serez libre. » Puis, il avait ajouté par habitude, « Si vous n'êtes détenu pour autre chose, Le lendemain, une foule attentive avait envahi le prétoire. Le prévenu comparaissait entre deux gendarmes. Que dis-je, deux gendarmes? Deux maires, pour le dévouement à ses égards. Et Jacques était si sûr de ne plus retourner en prison qu'il avait apporté à l'audience sa modeste garde-robe empaquetée dans un mouchoir à carreaux. À son intéressante famille, que la foule étouffait par amitié, il fit un signe affectueux qui voulait dire « Retournez à la maison, marchez en avant, je vous rejoins dans un instant, embrochez-le à grâce. » Elle obéit. Public, juge, juré, tous trépignaient d'avance, d'impatience. Mais le président, ce bon monsieur Duhlbach, calmait chacun. Les formalités avant tout, disait-il. Jacques vous sera rendu. Mais pour Dieu, observons les formalités. L'innocence du prévenu était évidente, si évidente, qu'on avait négligé le choix d'un avocat. Dans la foule, le président aperçut Maître Van der Linden, l'aigle du barreau. D'un coup d'œil, il lui désigna la place vide du défenseur. Le grand orateur répondit par un mouvement d'épaule qui signifiait « À quoi bon ? La vérité paiera seule !» Monsieur Duhlbach eut un second coup d'œil suppliant qui voulait dire « Mais les formalités, mon cher, les formalités !» Maître Van der Linden, qui étouffait dans la foule, pensa qu'il serait plus à l'aise au banc de la défense et vint prendre place. L'auditoire battit des mains à ce foudre d'éloquence qui allait protéger l'innocence de sa puissante parole. Enfin, on commença. À peine les témoins avaient-ils ouvert la bouche que le président leur interrompait par un « C'est bien, allez vous asseoir ». Les jurés se trémoussaient sur leur siège. Ils voulaient immédiatement passer au verdict. « Mais les formalités !» leur soufflait le président. M. Van der Linden se leva enfin. Un majestueux silence s'établit dans la foule, prêt à boire ses paroles. Du fond de son immense talent, le Démosthène belge tira ces magnifiques paroles. « Je me rapporte à la cour !» Cette phrase fut prononcée et fut ponctuée d'un tonnerre d'applaudissements qui détacha les plâtres du plafond. Puis la parole fut donnée au ministère public. Le procureur du roi, Maître Van Brouwer, était un jeune homme de talent. Récemment nommé, il faisait en cette cause ses premières armes. Un peu avant la remarquable improvisation de Van der Linden, il avait soufflé à l'huissier « Faites avancer ma voiture par la rue basse » et il avait rassemblé ses papiers pour partir au plus vite. Il se leva donc, cachant sous de longues manches de la robe, ses gants qu'il avait déjà remis. Il allait abandonner l'accusation. Mais au moment où il ouvrait la bouche, un froufrou de robe de soie s'entendit. Et mademoiselle Cécile Dutillag, la fille du président, fit son entrée dans l'enceinte réservée. C'était une bien belle personne que cette demoiselle, Cécile. Les plus riches parties avaient sollicité sa main. Elle les avait tous impitoyablement repoussés. Son dernier refus avait même fait scandale, car elle avait dédaigné le célèbre nom de Van der Linden, le Démosthène belge. Enfin, son cœur avait parlé pour le jeune procureur du roi, maître Van Brouwer, auquel elle était fiancée depuis la veille. Aimante comme elle se sentait aimée, et venant assister à la première victoire de l'élu de son cœur. Quand elle entra, Jacques, énervé par la chaleur de la salle, dormait profondément. À la vue de sa fiancée, dans le doux œil, il semblait amoureusement dire « Triomphe, mon bien-aimé !» Le procureur du roi éprouva en lui un petit mouvement de colère contre l'accusé. « Maudit Jacques !» se dit-il. « Pourquoi faut-il qu'il soit là ? Un bon scélérat à sa place, et je faisais sensation. » Peu à peu, il retira ses gants. Avant l'apparition de l'ange adoré, il allait abandonner l'accusation. Sans renoncer à ce dessein, il voulut orner son désistement de quelques fleurs de rhétorique. Il fut donc éloquent. « Bien, bien !» lui disait sa Cécile en un sourire. « Bravo, mon garçon, mon gendre !» approuvait du regard le président. « L'appétit, dit-on, vient en mangeant. » Donc il voulut non seulement être éloquent, mais observateur. Il fit voir combien les apparences sont quelquefois trompeuses. Puis, adroit et perspicace, il prouva comment ces apparences peuvent être invoquées contre Jacques. « Bien, bien !» continuait à dire le gracieux sourire de la charmante fiancée. « Bravo, mon gendre !» soufflait toujours M. Dutillac. Le procureur s'était échauffé, mais il alla adroitement revenir à son désistement, quand il fut brusquement interrompu par le célèbre défenseur de l'accusé. À l'entrée de Cécile, le grand orateur avait eu sa crise de nerfs et de rage jalouse. « Ah, ma belle, s'était-il dit, tu comptes aussi assister à la victoire du beau vainqueur pour lequel tu m'as refusé. Attends un peu, je vais te prouver que tu as préféré le son à la farine. » Il guettait dans les phrases de son adversaire un petit jour pour s'y trouver brutalement et s'y fourrer à la façon d'un coin en fer. Et au moment attendu, il rentra en lice par une virulente apostrophe. Le public, qui n'avait pas vu changer le décor, pensa que le premier le continuait toujours et applaudit à outrance. Maître Duvillac, dans cette ovation populaire, crut reconnaître un parti pris contre son futur gendre et tança sévèrement la foule. Puis il rappela l'avocat à l'ordre. La corde ainsi tendue, le ton changea. « Mais on entrave la défense après avoir surpris sa bonne foi !» s'écria le Démosthène. À tout propos, il se précipitait dans le réquisitoire comme un sanglier à travers les halliers. Il eut même quelques mouvements ordinaires, oratoires, qui attirèrent l'attention de Cécile. Un instant, elle parut réfléchir et se consulter. « Oh, je l'emporterai quand même !» se dit Van Brouwer, fou d'amour et de jalousie. Alors il revint sur ses apparences par lui citées, les souleva une à une et en tira des faits clairs, propres, précis et accusateurs. M. Dulibac approuvait du bonnet. La foule, toujours de l'avis du dernier qui parle, fut ébranlé dans sa conviction. Les jurés, tout surpris, secouaient la tête en murmurant « Ah, mais vous n'avez jamais dit ça !» Et le ministère public continuait, continuait toujours. Il fit sortir la vérité si nue de son puits que chacun ne put s'empêcher de s'écrier « Mais alors, ce Jacques est un misérable, une profonde canaille, un scélérat endurci. » Enfin, l'illustre défenseur eut sa réplique. Mais le coup était porté. La lumière s'est faite en l'esprit des jurés. On se disait, mais il est fou, il ne sait plus ce qu'il veut. Pourquoi s'en rapporter d'abord à la cour pour venir ensuite la contrecarrer? C'est donc par entêtement, etc., etc. Enfin, le bon monsieur du Tillag lui résumait les débats. Il fut involontairement plus beau-père que magistrat. Pour rendre hommage au bon goût de sa fille, il donna raison à son futur gendre. Les jurés s'écrasèrent pour courir plus vite à la salle des délibérations. Et Jacques fut réveillé par le hurrah de joie dont le peuple belge, enfin éclairé, saluait sa condamnation aux travaux forcés. Après la foule, un philosophe, qui de son coin avait assisté au débat, s'en alla murmurant ces deux vers de Properce, « Olim mirabar, quodant it ad bergama belli, europeae ad quaesiae, causa puella fuit ».